Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF.
CFR, la radio des écoles françaises. Éducation, identité et culture.
Le samedi 18 novembre prochain, la Société historique de la Saskatchewan propose aux francophones de la province d'assister à la formation d'initiation à la danse canadienne-française. La formation est gratuite et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi 15 novembre. Alexandre Chartier, directeur de la Société historique de la Saskatchewan, est venu nous présenter la danse canadienne-française ainsi que l'événement.
On propose un événement lié à l'initiation à la danse canadienne-française, samedi 18 novembre, et l'enjeu est de travailler sur... un projet qui vise à revitaliser la danse canadienne française dans la communauté française. Donc c'est un projet qui est sur le moyen et long terme. Une vision pour l'instant à 2 ans et on espère à plus long terme encore.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point historique justement sur cette danse et nous dire un peu quelles sont ses spécificités, les différentes étapes d'évolution par lesquelles elle est passée?
La danse, comment elle a évolué, elle est surtout venue avec les colons, parce que c'est une danse purement attachée aux populations francophones, très, très influencée par la danse eurocanadienne-française qu'on pratique encore aujourd'hui très fortement au Québec, et aussi influencée par des influences musicales et des influences folkloriques ici en Saskatchewan. Donc, par exemple, sur l'utilisation des musiques sur lesquelles on va commencer à danser, les musiques vont être beaucoup plus folk, par exemple, que celles qu'on peut retrouver dans l'Est du Canada. L'autre aspect intéressant, c'est aussi l'utilisation de certaines techniques. Certaines pas sont différentes. Et puis, on va trouver beaucoup plus d'aspects ici et beaucoup moins d'un autre côté, dans une autre région. Et historiquement, en Saskatchewan, la danse, on a eu plusieurs troupes de danse canadienne-française dans la communauté. On avait les danseurs de la rivière La Vieille du côté de Gravelbourg. On a aussi les danseurs de la Ribambelle dans la région de Saskatoon. On a aussi une troupe de danse qui a duré quelques années à Regina également. Toutes ont cessé leur activité au début des années 2010. Et ça ne voulait pas dire que la cessation d'activité était liée à un manque d'intérêt. Souvent, c'est des problématiques administratives et de maintien en fait des activités liées à l'opération, et on s'est rendu compte au final que de plus on avançait dans le temps, naturellement plus on allait perdre la mémoire des aînés, cette mémoire attachée à cette connaissance, à ces pratiques, ce patrimoine vivant. Donc l'enjeu, la question qu'on s'est posée, on a rassemblé des personnes, des anciens danseurs et danseuses qui étaient dans ces troupes, on a rassemblé aussi des gens qui avaient un intérêt particulier à la danse en Saskatchewan et particulièrement à la danse traditionnelle. Et là, à ce moment-là, on a posé la question, est-ce qu'on devrait revitaliser? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, en fait, pour s'assurer que la mémoire perdure? Est-ce qu'on veut retravailler sur ça? Et au final, ce qui s'est passé, c'est que l'intérêt a monté très rapidement, beaucoup plus qu'attendu. L'enjeu est rapidement monté pour s'assurer que la mémoire perdure, qu'il y a aussi un travail coopératif avec les autres provinces également de l'Ouest. Et le projet est rapidement arrivé... on va dire, rapidement arriver sur la table de cette manière-là, oui.
Et justement, pourquoi la transmission de cette danse, elle est importante?
Ben, c'est un témoignage, en fait, de la vitalité de la population francophone dans le temps. Ce qui est intéressant avec... la danse, c'est un élément du patrimoine vivant. Donc, c'est une transmission qu'on se fait de manière orale, la plupart du temps. C'est aussi un moyen de fêter, de vivre ensemble. Donc, c'est un élément de rapprochement social qui est fondamental, qui est essentiel. Beaucoup de personnes vous diront, et pas forcément des aînés, mais de tous les âges vous diront que les samedis soirs, ils passaient leur temps à aller à la danse. Et c'est des moments où, du coup, on allait, oui, danser, mais on allait aussi se rapprocher, comme on pourrait avoir aujourd'hui des soirées dans des cafés ou des bars. Donc, c'est un peu de cette manière-là que les personnes pouvaient se rencontrer et échanger en français. L'autre chose également, cet élément du patrimoine, vu que c'est un patrimoine vivant, il évolue dans le temps, il évolue avec les personnes de la société, les personnes des communautés. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un élément qu'il faut aussi voir comme qui va progresser. Les danses vont évoluer, il y a des danses qui vont être influencées par des nouvelles populations francophones, et ça va être très intéressant à observer dans le temps. Si on n'a pas ces éléments-là, on oublie des activités qu'on peut avoir pour le rassemblement, on empêche ça, on empêche aussi d'avoir un regard sur l'histoire de la communauté qui était bien présente. Donc c'est cette problématique-là, en fait, qu'on a, ces enjeux-là qu'on a.
Donc c'est une danse qui est historique, mais qui profite aussi des évolutions et qui les utilise dans ses bas de danse et qui ne reste pas figée telle qu'elle à la danse d'époque, quoi.
Exactement, comme si tu peux voir, par exemple, au niveau de la communauté, des communautés métisses, par exemple, leur danse a été influencée par l'ensemble des personnes qui forment leur communauté. Et là, on va retrouver des danses avec des origines de Première Nation. On va retrouver des éléments aussi de Canadiens-Français dans leur danse, des éléments aussi de danse écossaise, des bas écossais. Donc, c'est exactement la même chose pour l'ensemble des danses traditionnelles. Il y a des traditions respectées, naturellement, mais il y a aussi dans le folklore un élément qui va, des éléments nouveaux qui vont venir petit à petit teinter ces nouvelles danses, enrichir ça, amener des nouvelles rythmiques, des nouveaux instruments aussi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ça va devenir vraiment intéressant à observer dans le temps. Le patrimoine n'est pas quelque chose de figé, encore moins le patrimoine vivant, par son nom déjà. Donc c'est quelque chose qui évolue avec les gens qui forment et qui veulent participer à ce patrimoine-là. Quand on échange, par exemple, des contes, des légendes, ces légendes vont être transmises et évoluer dans le temps et teintées de la volonté de chacune des personnes. C'est là que c'est important de transmettre là et ça renforce énormément l'élément d'identité, en fait, dans les communautés.
Quelles sont les principales caractéristiques de cette danse et comment elle se danse maintenant, justement, avec son évolution?
Alors, c'est une danse qui se travaille beaucoup avec le bas du corps. D'accord, donc c'est vraiment les pieds et les jambes agissent énormément. C'est une danse qui se pratique beaucoup en groupe, en ensemble. Souvent, on essaie de, quand on parle de carré, on essaie d'avoir 4 personnes ou au minimum des couples, c'est-à-dire c'est toujours par couple. Donc ça peut être 4, 8, 12, etc. etc. Et c'était des éléments aussi souvent pratiqués. Alors c'est intéressant, comme je disais, dans l'évolution, c'était toujours un homme et une femme dans le couple. Aujourd'hui, c'est différent. On peut voir plein de choses différemment dans le couple. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant et aujourd'hui, on le voit beaucoup plus. Et on n'a aucun problème avec ça. Alors c'est intéressant comment ça évolue là également. C'est des danses qui se dansent avec une musique traditionnelle, enfin, du moins des musiques folkloriques. Ça peut être plus ou moins contemporain. Il peut y avoir des musiques, ce qu'on appelle la tradition fusion, des musiques qui amènent des rythmes un peu plus, ou des instruments un peu plus contemporains, plus électriques par exemple. Ça, on peut le voir de cette manière-là également. Et voilà, c'est une danse. Alors, ça fait bouger, ça fait surtout rire, et c'est des interactions en fait entre couples. Donc, il y a des mécanismes à suivre. Ce qui est important à voir dans cette danse, c'est ce qu'on appelle un caleur ou une caleuse. Donc une personne qui va sur la musique indiquer aux personnes qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est elle qui va nous dire, cette personne-là, qui va nous transmettre des consignes à l'oral, et donc avec une certaine codification relativement simple, et on va suivre ces consignes. Donc c'est comme ça qu'on va danser ensemble, en fait, et avoir une pratique qui est plutôt amusante.
Comme un peu en arbitre, en fait.
Ouais, comme un peu un arbitre. Il n'y a pas une game où personne va gagner ou perdre. Mais c'est un peu, souvent, on parle avec la musique, j'ai oublié le nom, mais les musiques qu'on associe au tout ce qui est ouest américain.
D'accord.
En ligne, les danses en ligne, où on entend quelqu'un qui cale, c'est exactement la même chose, il y a quelqu'un qui va caler également, et là, on va pratiquer les choses que la personne va dire, en fait, tout simplement. Donc, si elle nous demande de tourner, si elle nous demande de faire un dessous-dessous avec les bras, etc., ben, on va le faire ensemble, et dans la rythmique de la musique.
D'accord.
Et ça actionne comme ça, ouais.
Et est-ce que les danseurs portent des tenues traditionnelles?
On n'aura pas de tenue pour la formation traditionnelle. On aura la ceinture fléchée. Mais effectivement, quand on parle de troupe de danse canadienne-française, il y a des tenues traditionnelles. Comme toute troupe de danse, c'est des tenues qui sont propres à la troupe elle-même. Elle va développer cette tenue-là. Souvent, il y a des éléments dans certaines traditions qui se croisent. Ça, c'est normal, mais chaque tenue de chaque troupe est unique et elle ne peut pas être en plus transmise à une autre troupe. C'est quelque chose d'unique, oui.
Et est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'une troupe pour que vous nous en parliez un petit peu plus de cette tenue?
Ça, c'est une bonne question. Ce serait intéressant de te montrer sur un site web ou avoir accès, mais tu peux voir les troupes. Ce que tu peux voir dans l'uniforme, bien sûr, tu vas avoir un pantalon relativement lâche avec des chaussures qui vont souvent avoir une semelle, en métal, ou une semelle qui a un impact de bruit au pied. Donc ça va permettre de faire de la podorhythmie, qu'on appelle, pouvoir taper et giguer s'il y a besoin. Tu vas avoir une chemise souvent pour les hommes et une robe pour les femmes. Sur la chemise des hommes, il y a un gilet souvent qui apparaît. C'est souvent sur le gilet d'ailleurs qui amène la colorie, le coloris propre ou les formes, les broderies qui sont plus identitaires à la troupe. Dans le côté canadien-français, comme dans le côté métis, tu peux avoir la ceinture fléchée qui va apparaître. Donc, ceinture fléchée qui se porte à gauche ou à droite, dépendant de la volonté là, du groupe. Et bon, c'est à peu près ça. Après, il y a d'autres choses. Quelquefois, il y a d'autres choses qui sont amenées, dépendant de chacune des troupes. Et quelquefois aussi, ça dépend de certaines danses. Certaines troupes peuvent avoir moins d'uniformes pour mieux circuler, en fait, pour mieux pour faciliter le mouvement. Le but du jeu dans ces uniformes, c'est quand même de se sentir à l'aise et de travailler sur le mouvement. Là. Il ne faut pas que ça bloque le mouvement, en fait.
D'accord.
Et ça fait bouger, donc on transpire beaucoup, là, franchement. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit, là.
Il faut qu'elle soit pratique aussi.
Exactement.
Alors, j'ai vu qu'on parlait de danse folklorique de survie et de danse folklorique de résurgence. Qu'est-ce que ça signifie et quelles sont leurs particularités?
Waouh, une bonne question, ça. C'est surtout lié au format identitaire, ou du moins à la puissance identitaire qu'on a besoin dans chacune des communautés. C'est comme nous, quand on parle de revitalisation de la danse, c'est un élément qui a été oublié de manière communautaire dans l'ensemble, mais ça n'a pas été encore oublié par les personnes qui la composent. Si je dis ça, par exemple, c'est parce que quand on a amené des éléments, ou du moins fait un appel à certaines personnes, on s'est vite rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de personnes dans la communauté qui ont pratiqué la danse quand ils étaient plus jeunes, que ce soit par l'école ou par un groupe communautaire ou par intérêt extrascolaire. Et aujourd'hui, il y a une grosse envie, par exemple, de ramener ça parce qu'ils veulent enseigner cette danse à leurs enfants, à leurs prochaines générations. Donc là, on est vraiment sur un moyen de survie parce que la mémoire est en train de disparaître. Une fois qu'on a perdu la mémoire d'une connaissance, une capacité à la retrouver, ça devient beaucoup plus complexe, en fait. Donc là, on est sur un élément de survie. Donc c'est un peu ça, là, mais c'est une bonne question. Il va falloir qu'on pourrait creuser ça, là.
Et est-ce que cette danse, elle a eu, ou même est-ce qu'elle a encore un aspect important dans les activités sociales, professionnelles ou même religieuses?
Pas forcément. C'est une activité, c'est pas forcément dans les activités religieuses, mais plutôt dans les activités sociales. Moi, je dirais professionnelles. Je pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, il y a particulièrement quelque chose d'un aspect professionnel à amener. Autre que le fait que s'il y a des personnes qui veulent se professionnaliser dans la discipline du folklore canadien-français, ils pourraient le faire comme artiste. Ah, c'est évident. Mais au niveau du développement social, c'est évident que ça joue un rôle primordial. C'est un élément de danse qui n'est pas comme au niveau socialisant, qui est très actif en fait, et très facile. Ça ne demande pas, par exemple, de devoir s'habiller ou de devoir d'avoir des contraintes sociales. On peut venir à une danse comme si on venait, comme on allait boire un café dans un café, là, un bistrot par exemple, tout simplement, où c'est quand même quelque chose de très facile à utiliser. Dans du développement de soirée, dans du développement social. On n'est pas comme spectateur passif, on n'est pas assis en train de regarder un spectacle. C'est des éléments, on est actif. Ça, c'est intéressant à voir dans des activités de développement social. Ça peut se faire la journée, la nuit. C'est ça qui est intéressant dans la danse. L'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas uniquement un élément social où ils font rassembler un nombre de personnes foules et très important. Ça peut être de rassembler tout simplement en famille. Ça peut se faire entre les familles, un dimanche matin, ou je ne sais pas, un dimanche après-midi, en train de préparer le repas. C'est quelque chose qui est très amusant à pratiquer. Il y a des pas à apprendre, et il y a des musiques à chantonner. Donc c'est quelque chose, c'est ça qui amène cet aspect socialisant qui a presque pas de frontières, au final.
Parce que même, en fait, si on veut simplement aller voir une représentation, en fait, on peut même aller participer à la danse. Il n'y a pas, comme vous l'expliquez, de spectacle, spectateur en tant que tel.
Alors c'est ça. Tu peux avoir des spectacles de danse folklorique, donc d'aller voir des troupes professionnelles. On a souvent vu là dans les années 2000 beaucoup de troupes, par exemple irlandaises, c'était à travers le monde quelque chose qui a très bien fonctionné. Donc tu vas voir un spectacle, tu es spectateur, et donc voir des professionnels danser avec un spectacle et ça raconte souvent une histoire. Donc tu vois, on retrouve beaucoup d'éléments du patrimoine vivant à travers la musique, à travers la danse, à travers les chorégraphies et les contes. et légendes. Ça, c'est des éléments, c'est vraiment du spectacle, comme ça se rapproche presque de la comédie musicale. Mais les veillées d'ensemble, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien et on participe. Les personnes qui viennent participent. Elles peuvent être spectatrices, bien sûr, et regarder, prendre du plaisir à regarder les gens danser, parce que c'est très plaisant, on rigole, en fait. On rigole parce qu'on fait, entre guillemets, plein d'erreurs ou on se trompe, et c'est là que ça devient très amusant, en fait. Donc, c'est ça que cet élément-là qui crée des rapprochements très, très forts, en fait, et crée des souvenirs ensemble. Il n'y a pas besoin de connaître, de savoir danser pour aller dans ce type de danse-là, en plus. Donc, il y a un accompagnement qui se fait de manière très naturelle. C'est ça qui est très agréable.
Et justement, par rapport à la pratique, est-ce que tout le monde peut s'essayer à cette danse ou est-ce que ça peut être mal vu? Comment faire en fait la distinction entre l'appréciation et l'appropriation culturelle?
Tout le monde peut faire la danse parce que dans le patrimoine vivant, l'appropriation, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais il faut la voir d'un côté positif, dans le sens où l'enrichissement de ce patrimoine-là va le rendre encore plus vivant. C'est-à-dire que pour l'appropriation culturelle, il y a deux manières de le voir. On peut la voir comme une frontière à ne pas dépasser, et on peut aussi la voir comme un élément qui vient alimenter la vitalité en fait, de ce patrimoine-là. Donc ça, c'est ces deux manières de voir. Il y a aussi la manière dont on va s'approprier des éléments, comment elle est faite, est-ce qu'elle est faite de manière respectueuse, intègre ou pas. Donc là, etc. Il y a plusieurs éléments qui viennent se greffer à ça. Dans le patrimoine vivant, comme dans la danse canadienne-française ou les éléments traditionnels, il y a des éléments traditionnels qu'il faut respecter, des pratiques culturelles tout simplement, pas écrites, c'est des normes collectives qu'on a et qui vont évoluer avec le temps. Et ensuite, ces barrières, les barrières vont bouger, vont se transformer et continuer à vivre à travers justement ces appropriations. Tu sais, quand je te parlais par exemple tout à l'heure des couples qui étaient traditionnellement formés uniquement des hommes et des femmes, aujourd'hui on peut voir très facilement à faire des danses entre des femmes et des femmes et des hommes et des hommes, la manière comment les gens sont à l'aise par exemple. Ça ne pouvait pas se voir il y a encore quelques années, aujourd'hui ça se voit et au contraire ça amène des éléments nouveaux et en plus ça vient aussi pousser la réflexion sur les éléments chorégraphiques ou les éléments de danse, parce que les hommes font souvent des types de pas que les femmes ne font pas et inversement. Donc c'est là que ça devient très intéressant, ce côté d'appropriation et de transformation qui ne vient pas dénaturer la danse, en fait, et ni la musique, en fait. Ça vient alimenter et encourager cette vitalité. Ça est attaché. Tous les éléments du patrimoine vivant sont attachés à la manière dont la société ou la communauté, elle vit. Donc faut que si ce patrimoine vivant ne suit pas l'élément de la communauté, il deviendra plus vivant.
D'où ce dont on parlait tout à l'heure, où la danse, en fait, se nourrit de l'évolution, quoi.
Exactement. Donc, tout le monde est accès. Il n'y a pas besoin d'avoir de formation de base de danseur ou de danseuse. Il n'y a pas besoin d'avoir, un physique particulier ou une origine particulière. C'est une danse, c'est des danses collectives, c'est de la pratique où on invite tout le monde et on va écouter, on va suivre. Et si les gens pensent faire des erreurs, ben on va s'amuser avec ces erreurs-là et on va continuer. Donc c'est un jeu, un travail d'ensemble. On joue en équipe, entre guillemets, là. Si on reprend l'arbitre, on joue avec tous en équipe et il n'y a personne qui fait des erreurs. On vient s'amuser et prendre du plaisir ensemble. C'est ça, en fait, la danse canadienne française, tout simplement.
Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire sur la formation d'initiation à la danse canadienne pour que les gens viennent nombreux et nombreuses?
On a une formatrice, la formatrice Olivia Leclerc d'Edmonton, de l'association La Girodole, qui est une école de danse francophone, qui sera présente avec Michel Vézina et Guy Verret. Donc c'est vrai que on reprend quelque chose de nouveau. Donc tous ceux qui ont même des doutes, il ne faut vraiment pas essayer à s'inscrire. C'est gratuit. On peut aussi aider les personnes à se déplacer si elles viennent de plus loin. Enfin, ils peuvent nous contacter à la société historique. Et c'est une journée pour avoir du fun. Ils viennent apprendre. L'enjeu est d'essayer de former une nouvelle formation et d'encourager les gens à le faire. Et nous, notre enjeu, c'est de s'assurer que le plus de communautés francophones et de futurs caleurs et danseurs qu'on puisse reprendre des veillées dansantes, en fait, tout simplement, et s'amuser, en fait, dans le futur. Donc, ne pas hésiter à avoir de doutes à s'inscrire, c'est une belle journée, tout simplement, pour pouvoir passer.
Merci beaucoup, Alexandre. Petit rappel pour nos auditrices et nos auditeurs, n'hésitez pas à venir nombreuses et nombreux à la formation d'initiation à la danse canadienne-française qui se tiendra le samedi 18 novembre 2023 de 9h30 à 15h à Saskatoon. et plus précisément à l'auditorium du pavillon Gustave Dubois à l'école canadienne-française. Vous pouvez vous inscrire via le formulaire que vous trouverez sur le site de la Société historique de la Saskatchewan et sur celui de la radio du CEF dans la rubrique événements ou par téléphone au 306 737 08 03.
Merci beaucoup à vous aussi, c'est gentil.
Et à bientôt.
À bientôt.
Et les élèves, vous écoutez votre radio CFR? Aujourd'hui, rien de plus facile. Juste avec un simple clic, téléchargez votre application Mission Absol et Google Play. Bienvenue!